Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, RFI vous donne la parole comme tous les jours, mais aujourd'hui, vous le savez, nous sommes vendredi, c'est la libre antenne, vous commentez l'actualité de votre choix, vous revenez donc sur tous les sujets qui vous ont marqué dans l'actualité française, internationale, africaine, vous savez que tous les sujets nous intéressent, même ceux qui ne font pas la une de la presse internationale, où que vous soyez à travers le monde, appelez-nous, parlez-nous d'ailleurs de l'actualité dans votre pays, dites-nous quels sont les sujets justement qui font polémique, qui suscitent le débat chez vous, en tout cas, vous êtes les bienvenus. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous écoutez en France, les réseaux sociaux, et j'en profite évidemment pour nous rappeler, pour vous rappeler qu'il existe encore une boîte aux lettres électronique. Et oui, le mail, ça existe encore, donc n'hésitez pas, vous pouvez également nous contacter à l'adresse appel@actu.rfi.fr et envoyez-nous un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler. Nous allons parler du Burundi d'abord dans cette libre antenne. Vous le savez certainement, le pays est sous le choc depuis quelques jours après l'assassinat de trois religieuses italiennes tuées dans leur monastère après avoir été violées. Cécile, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Vous nous appelez de Berlin.
Oui, voilà.
C'est bien ça. Vous êtes vous-même burundaise. Évidemment, vous avez été choquée, émue en apprenant cette information.
Voilà, comme toute la communauté à Bujumbura, ça m'a choqué et je suis aussi très surprise parce que très peu de temps après, on a présenté un coupable soupçonné d'avoir commis ces crimes. On dit que c'était une personne fou, connue dans le quartier comme fou, et je doute de ce fait. Premièrement parce que je pense pas que cette personne là puisse avoir commis ce crime toute seule. Deuxièmement, on a présenté des preuves dont je doute aussi de l'authenticité. Un téléphone.
Voilà, je précise qu'effectivement, la police affirme qu'il était en possession du téléphone de l'une des trois religieuses, ainsi que de l'une des clés du couvent dans lequel vivaient ces religieuses.
Oui, donc il aurait dû faire ça tout seul, à deux reprises se présenter là, en pleine nuit, quand ce monastère a été entouré par la police. Un fou, je pense pas qu'il puisse avoir fait ça tout seul. Ensuite, on présente une chemise ensanglantée, on sait même pas si ce sang appartient aux sœurs ou pas. Je pense qu'il n'y a pas de preuve ADN qui s'est déjà faite.
Mais quel intérêt auraient les autorités à présenter tout de suite un suspect qui ne serait pas le vrai suspect ?
Bon, ben, ça c'est des suppositions. Mais d'un côté, on se présente comme protecteur de cette communauté qui a déjà souffert dans le passé. À Ngozi, deux religieux ont été tués. On a très vite trouvé des suspects et on a enterré ce fait. On ne voulait plus en parler. On se présente en tant que protecteur et d'un autre côté, on fait peur et on essaye peut-être de faire taire des gens qui normalement ne se laissent pas interdire la parole. Ils sont pas très 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 commode ces religieux.
Ouais. Je rappelle que deux religieuses ont été égorgées, la troisième a été décapitée. Elles étaient âgées. Sœur Lucie avait 75 ans, sœur Olga 83 ans et sœur Bernadetta avait 79 ans. Cécile, vous êtes à Berlin. On a reçu le courrier électronique de Louis qui nous écoute à Bujumbura. Nous l'avons rappelé. Bonjour Louis.
Bonjour, monsieur Juan.
Vous aussi, vous doutez de ce suspect présenté par la police il y a quelques jours?
Très bien, monsieur Juan. Justement, c'était mercredi que la police nationale a présenté un présumé coupable du triple assassinat des trois sœurs italiennes qui ont été tuées dimanche dernier. Mais ce qui choque ici, c'est que l'entourage du couvent, là où ses sœurs ont été assassinées, ici, les publics et privés ont fait passer des interviews des gens qui connaissent le présumé coupable du nom Otoyi comme un déséquilibré mental, ça va faire 10 ans. Et vu, disons, comment ces trois sœurs ont été tuées, les uns dans l'après-midi et les autres, l'autre, la troisième, durant la nuit, à 3 heures du matin, il est vraiment incompréhensible qu'un tel déséquilibré soit vraiment le vrai coupable de triple assassinat. Ouais.
Cécile à Berlin, vous ne faites pas confiance, vous, en la justice burundaise?
Dans ce cas-là, j'y crois pas. C'est, à mon avis, c'est toute une montée de toute pièce cette histoire, et il y a beaucoup plus derrière. J'y crois pas.
Enfin, vu le vu le choc que suscitent ces trois assassinats, effectivement, et vu l'émotion, les autorités, voilà, doivent à tout prix présenter quelqu'un pour donner au moins l'impression et le sentiment que la justice, que la police fait son travail et que la justice le fait également. En tout cas, ces trois religieuses ont été inhumé hier à Bukavu en République démocratique du Congo, puisque c'est à Bukavu que ces trois religieuses ont travaillé pendant plus de 30 ans, et il y avait foule hier à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de la cathédrale de Bukavu pour rendre un dernier hommage donc à ces trois religieuses. Cécile et Louis, merci à tous les deux de nous avoir appelés. Cécile à Berlin et Louis Bujumbura. 33 9 693 693 70, c'est la libre antenne. Comme chaque semaine depuis maintenant un bon mois, dans chaque libre antenne, vous êtes nombreux à souhaiter parler du chaos libyen, d'autant que les craintes se multiplient de voir ce pays, et principalement le Sud, devenir un réservoir de groupes terroristes. Bonjour Hyacinthe.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez d'Abidjan, c'est bien ça?
Oui.
C'est bien ça. Et vous dites qu'il faut maintenant, désormais, une intervention militaire internationale.
Oui, mais tout d'abord, je dois d'abord rappeler le contexte en Libye.
Alors, Hyacinthe, éloignez un tout petit peu votre bouche du combiné, sinon le son sature et on ne vous comprend pas très bien.
D'accord, ça, là, c'est mieux.
Pas vraiment. Écoutez, on va vous retrouver dans un instant, ça ira mieux dans un instant, je l'espère. Pitou, vous aussi, vous souhaitez réagir au chaos libyen. Bonjour Pitou.
Bonjour Juan.
On vous écoute. Faut-il une intervention militaire, comme voulait le dire à l'instant Hyacinthe?
Oui, faut-il une intervention militaire, mais pas seulement l'intervention militaire, et qu'il faut aussi négocier avec les bonnes armées, parce que si juste nous nous attelons juste à l'intervention militaire, mais ça va toujours rester une menace pour le sud de la Libye, parce que ces bonnes armées vont se cacher, et à tout moment, ils vont revenir pour menacer la population. Donc, on va faire à la manière du Mali. Aujourd'hui, on a repoussé les rebelles, mais aujourd'hui aussi, on est en train de négocier avec ces mêmes bandes de rebelles afin que la calmie se retrouve au niveau du Mali. Donc, il faut pas qu'on se limite juste au niveau de l'intervention militaire, mais il faut qu'il y ait aussi négociation avec ces bandes armées.
Ouais. Donc, quand vous parlez d'intervention militaire, faut-il une intervention occidentale, comme c'était le cas, et ce fut le cas il y a 3 ans, cette intervention franco-britannique aidée également par les États-Unis. L'intervention à l'époque avait permis la chute du régime de Muammar Kadhafi, ou faut-il une intervention 100% africaine, comme l'ont dit d'ailleurs cette semaine certains auditeurs sur cette antenne?
Non, l'intervention 100% africaine, je suis quasiment contre, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'exemple est donné au niveau de la Centrafrique. L'intervention 100% africaine n'aboutit pas, ne parvient pas à apporter la solution, mais pour moi, c'est plutôt occidental. Et ça ne doit pas être la France seule, mais ça doit plutôt être l'Angleterre, les États-Unis et les Français, parce que ce sont eux qui ont été à l'origine des conséquences, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui là. Ils avaient mal appliqué la résolution de 1973, de l'exclusion aérienne. Mmh. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons dans le chaos.
Vous parlez de la France, car le ministre français de la Défense a accordé un entretien cette semaine à nos confrères du Figaro, et il a déclaré que la France devait agir en Libye et mobiliser la communauté internationale. Et Jean-Yves Le Drian a dit que les acquis obtenus au Mali contre la menace djihadiste étaient menacés aujourd'hui, d'une certaine façon, par la détérioration sécuritaire en Libye. Hyacinthe, on vous retrouve. Voilà, en vous entendant, oui, me dit-on mieux, vous êtes toujours à Abidjan. Pourquoi faut-il une intervention militaire internationale aujourd'hui en Libye?
Oui, mais Juan, avant de parler d'intervention, j'aimerais vraiment rappeler le contexte en Libye. Il s'est trouvé que une coalition de pays avec la France en tête au sein de l'OTAN ont aidé des rebelles à combattre le régime de Kadhafi jusqu'à le capturer et l'assassiner. C'est de là que provient le chaos que nous observons aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas aller dans un pays, téléporter des armes, assassiner un président et puis se retirer. Donc, pour moi, la France et l'OTAN doivent se mobiliser pour pouvoir rétablir l'ordre en Libye avant que le dialogue politique ne se mette en place.
Ouais. C'est-à-dire, si je vous comprends bien, la France, puisque vous l'avez cité à plusieurs reprises, a aujourd'hui l'obligation d'agir en Libye.
Oui, de concert avec l'OTAN, puisque c'est elle qui a amené les pays de l'OTAN à envoyer des armes aux milices en Libye, aujourd'hui, qui font la loi.
En tout cas, on ne se dirige pas, pour l'instant, vers une opération militaire. Le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, a été très clair cette semaine. Une solution politique doit être privilégiée parce que c'est la seule à même d'apporter une réponse durable à l'instabilité en Mali. Donc, on privilégie aujourd'hui le dialogue, Hyacinthe.
Mais de quel dialogue il s'agit? On peut pas, on dialogue avec qui? Est-ce que les milices qui sont en Libye ont des revendications politiques? Non. Je ne pense pas que les milices qui sont aujourd'hui en Libye, qui sèment le désordre en Libye, aient des revendications politiques. C'est plutôt pour des revendications du genre à contrôler une partie des richesses pétrolières du pays. C'est ça qui suffit de l'action. Donc on ne peut parler de solution politique lorsque on a en face des groupes qui ont des sujets politiques, qui ont des valeurs d'ordre politique, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui en Libye.
Le débat est loin d'être clos, Hyacinthe. On aura l'occasion évidemment d'y revenir dans les prochaines semaines. Merci à vous, bonne journée à Abidjan. Merci Pitou également d'avoir contribué à la réflexion ce matin sur le chaos libyen. Et on vous souhaite une bonne journée à Niamey. 33 9 693 693 70, c'est la libre antenne. Y a-t-il, oui ou non, des militaires burundais installés dans l'est de la République démocratique du Congo? La question fait débat. On en parle dans nos différentes éditions des journaux africains, des RFI, et on en parle parce que la population affirme que oui, en ce moment, il y a plusieurs centaines de soldats burundais à l'est de la RDC. Le gouvernement, le Burundi lui-même, la MONUSCO, donc la mission des Nations Unies, affirme tout le contraire. Bonjour Jean-Pascal.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Kinshasa et vous souhaitiez justement nous interpeller sur cette actualité.
Oui, c'est sûr, parce que là, c'est un peu bizarre, parce que comme vous venez de le dire, il y a la MONUSCO qui dit qu'en fait, il n'y a pas de troupes burundaises, et le gouvernement congolais, ainsi que le gouvernement burundais. Bon, on est un peu habitué, vous savez, de la part de nos gouvernements, de ne pas avoir l'information exacte. Où ça devient un peu plus inquiétant, c'est quand la MONUSCO dit qu'il n'y a pas de troupes. Pendant qu'en fait, sur les lieux même, il y a des gens qui ont vu ça. Il y a même une équipe de RFI qui a vu qu'effectivement qu'il y a des troupes burundaises.
Oui, notre correspondante, effectivement, s'est rendue dans le village de Kaliba, qui se trouve à 5 kilomètres de la frontière burundaise. Et effectivement, à 500 mètres du village, on aperçoit des tentes et des éléments vêtus de treillis aux couleurs du Burundi. Quel intérêt, Jean-Pascal, aurait-on à cacher la présence de ces militaires?
Ouais, mais justement, c'est ce qui dérange un peu. Là, je viens de suivre cette affaire de religieuses italiennes qui ont été tuées. Mais il ne faut pas qu'on retombe de nouveau dans les travers du passé, avec de nouveau des troubles, de nouveau des assassinats, de morts. Et c'est un peu ça qui fait peur. Parce que à chaque fois qu'on a comme ça des troupes qui s'amassent aux frontières, il y a toujours des retombées, qui font que il y aura toujours des placements,
oui.
Des populations.
Mais Jean-Pascal, en admettant qu'il y ait, comme l'affirme la population effectivement, des militaires burundais, à votre avis, ils seraient présents avec le feu vert des autorités de Kinshasa ou pas?
Oui, mais c'est ça, on aimerait bien savoir. Parce que avoir 700 personnes, comme on l'a dit, tout au long de cette frontière. Et puis quand j'ai encore suivi le Premier ministre hier qui disait que sur le plan sécuritaire tout va bien, mais je crois qu'en fait, il faut qu'on y dise quand même. Parce que il y a un précédent. Il y a un précédent il y a quelques années, avec le problème des soldats rwandais, et qui avait même coûté le poste président de l'Assemblée nationale à M. Kamere.
Vita Kamere.
c'est parce qu'en fait, il s'est insurgé contre cette affaire-là. Mmh. Et puis, on a vu la suite.
Bon, en tout cas, vous attendez, vous, des réponses à toutes ces zones d'ombre, effectivement. Il y a beaucoup d'interrogations autour de cette affaire. On y reviendra dans nos prochaines éditions. On essaiera d'y voir plus clair. Merci Jean-Pascal. RFI à Kinshasa, c'est sur les 104.9. 10h55 à Paris. Il nous reste 5 minutes. Bernard, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes à Oumé, à 297 km d'Abidjan, pour être précis. Et vous souhaitiez profiter de la libre antenne pour nous parler des conditions de vie des producteurs de cacao. Vous êtes vous-même, c'est bien ça, producteur de cacao?
Tout à fait. Je suis producteur de cacao et en même temps président d'une association dénommée Défi Café Cacao.
D'accord. Et vous souhaitez nous en parler puisque le gouvernement ivoirien a annoncé récemment que la Côte d'Ivoire, donc premier producteur mondial de cacao, connaissait une campagne 2013-2014 record. Plus d'1,5 million de tonnes de cacao ont été récoltées. Donc c'est une très très bonne nouvelle, évidemment, pour la Côte d'Ivoire, pour les producteurs de cacao. Mais en même temps, vous tenez un peu à relativiser ce succès et surtout à nous dire bien oui, on récolte beaucoup de tonnes, mais en même temps, les conditions de vie des planteurs ne sont pas bonnes.
Oui, tout à fait, les conditions de vie des planteurs ne sont pas bonnes. Nous voulons qu'il y ait un statut social des planteurs. Parce que nous, à notre niveau, nous avons fait notre tradition, étant donné que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, et cette année aussi, c'est l'année internationale de l'agriculture familiale. Alors nous voulons que à ce niveau, l'État de Côte d'Ivoire, plus précisément nos tuteurs, puissent vraiment nous prendre en compte quand il s'agit de notre statut social.
Oui, mais alors, quand vous dites, voilà, nous réclamons des acquis sociaux, lesquels, par exemple? Donnez-nous un ou deux exemples.
Bon, dans un premier temps, quand on est planteur, on n'a pas droit à l'assurance maladie. Quand on est planteur, on n'a pas droit au crédit pour pouvoir entretenir nos champs. Quand on n'a pas de fonds, vraiment, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et à ce niveau-là, nous interpellons un peu nos autorités pour qu'elles puissent mettre un cadre permanent, puisque nous sommes une force de proposition, pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour voir désormais comment est-ce que le planteur sera vu. Mmh. Donc, une fois les fèves de cacao sont vendues, et à un moment donné, quand ça part, le planteur est livré à lui-même, il est dans une vraiment situation de pauvreté totale. Donc, nous voulons lancer un appel auprès de nos autorités, surtout le président de la République qui fait beaucoup pour les planteurs quand il s'agit des prix, mais nous aimerions que cette année, par rapport à notre activité sur le terrain, on a beaucoup fait pour nous, chacun a joué sa part de partition. D'accord. Nous, les planteurs, on a fait que la Côte d'Ivoire ait été premier producteur mondial, que de grâce, et puis nous, le prix du cacao puisse passer au minimum à 1000 francs.
D'accord. Bah, voilà. Écoutez, j'espère que vous êtes entendu, Bernard. En tout cas, ce que disent les autorités, c'est que cette hausse de la production cette année confirme que la réforme du secteur entreprise par l'administration du président Ouattara a, je cite, un très fort impact positif sur le niveau de vie des paysans ivoiriens. En tout cas, ce n'est pas votre avis, Bernard, vous qui êtes directement concerné. Merci d'écouter RFI à Oumé. Il nous reste 2 minutes. Bonjour, Amadou.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Niamey et comme beaucoup d'auditeurs nigériens, vous souhaitez revenir sur la fuite du président de l'Assemblée nationale du Niger. Rappelons qu'Amahamadou a quitté son pays il y a maintenant 2 semaines, qu'il s'est réfugié en France. Il prétexte un complot politique contre lui. Il est soupçonné en fait de complicité, de supposition d'enfants dans ce dossier de trafic présumé de bébés. Et vous vous dites, bah écoutez, pour connaître la vérité, il n'y a qu'une chose à faire. Il doit faire un test ADN.
Oui, il doit faire un test ADN. Et d'abord, moi, je veux dire qu'on n'en a vraiment rien à faire de cette histoire présumée de trafic de bébés pour la simple raison qu'elle fait ombre aux vraies préoccupations des Nigériens. Maintenant, pour établir la vérité, apparemment, Hamas se base sur des questions religieuses pour dire que l'homme ne doit pas faire, le mari ne doit pas faire de test ADN, mais par l'avocat de sa femme, on a appris qu'elle est d'accord pour faire ce test ADN. Mmh. Alors, si c'est le cas, le ministre de la Justice doit s'exprimer sur la question et éclairer l'opinion là-dessus. S'il est vrai que la femme de Hamas est d'accord pour faire ses tests, ça permettrait au moins de savoir si ses enfants, elle les a mis au monde ou pas.
Ouais. Et lorsqu'il dit effectivement, la religion musulmane interdit aux hommes de faire un test ADN, ça vous semble crédible comme argument ou pas? En quelques mots.
Et moi, je refuse de faire de commentaires là-dessus parce que je ne connais pas un passage du Coran qui le dit. Peut-être que ça existe, ouais. Peut-être que ça n'existe pas. Mm. Mais toujours est-il dit que la justice est la justice. Si Hama n'est pas là, sa femme est là.